France Musique.
The next stop is 42nd Street.
Come here, Vinny.
Laurent Vallière, 42e rue.
Bonjour à tous, bienvenue en direct ou en podcast sur la 42e rue de France Musique. L'abondance, la vitesse, le mouvement, le corps qui bouge et qui émeut, et un humour distancié. Tels sont les ingrédients de ce que les Américains nomment l'entertainment, en français l'amusement ou la distraction. Un concept au cœur du projet d'Hollywood, en particulier dans les années 30, 40 et 50, lorsque les grands studios américains offrent aux spectateurs de grandes comédies musicales grandioses sur grand écran. Et c'est le point de départ de votre ouvrage. Fanny Beret, bonjour.
Bonjour Laurent.
Bienvenue sur la 42e rue. Vous avez fait paraître un livre extrêmement érudit et précis sur la comédie musicale hollywoodienne de l'âge d'or, paru aux presses universitaires de la Sorbonne. Un livre issu de votre thèse. Vous êtes docteur en études cinématographiques, vous enseignez à Paris Diderot, à la Sorbonne, à Nanterre. Le livre s'intitule « That Entertainment, musique, danse et représentation dans la comédie musicale hollywoodienne classique ». En gros, vous avez étudié 58 films de l'âge d'or de la comédie musicale, de 42nd Street en 1933 à Funny Face en 1957. Et ce matin, c'est vous qui programmez 42e rue. Alors votre livre est passionnant car il explore le genre de la comédie musicale au cinéma, mais ensuite, il offre une analyse sur le genre dans la comédie musicale, les modes de représentation dans ces films des hommes, des femmes et des minorités, avec des exemples très précis. Alors, chers auditeurs, c'est une expérience un peu inédite pour vous aujourd'hui, car sur la page de 42e rue de France Musique, sur francemusique.fr, on vous a mis toutes les vidéos en entier des morceaux choisis par notre invité pour mieux en profiter. Alors on parle d'abondance et on ne pouvait pas ouvrir ce numéro de 42e rue sans un grand numéro, comme les aimait Busby Berkeley. C'est un extrait de Dame et je vous fais le pitch. À ce moment de la discussion dans le film, des financiers de spectacles sont autour de la table. Ils n'investiront pas sur n'importe quel spectacle. L'un dit qu'il faut la meilleure musique possible, un autre qu'il faut le meilleur auteur, un autre encore qu'il faut les meilleures chansons, et quelqu'un met tout le monde d'accord. Non, en fait, pourquoi les gens vont au spectacle? Pour voir de magnifiques dames.
Who writes the words to music for all the girly shows? No one cares and no one knows. Who is the handsome hero? Some villain always frames. But who cares if there's a plot or not when they've got a lot of dames? What do you go for? Go see a show for. Tell the truth, you go to see those beautiful dames. Yes, you spend your dough for bouquets that grow for all those cute and cunning young and beautiful dames. Oh, dames are temporary flames to you, dames. You don't recall their names, do you? But their caresses and home addresses linger in your memory of those beautiful dames. Yes?
Mr. Earl Farrell to see you.
Can't see him.
Also, Mr. George Hershwin.
Tell him tomorrow. Now, gentlemen. Well?
Miss Dolly DeVoe to see you.
Sure I am. Miss DeVoe?
Yes.
Come right in.
Thank you. Kind of you to see me.
Oh, not at all. Yes?
Miss Dubin, Miss Warren, Miss Kelly, Miss...
Send them all in. Come right in, girls. Keep your addresses. My big successes all depend a lot upon you beautiful dames. As I was telling all those gentlemen a while ago that... What do we go for? Go see a show for. Tell the truth, we go to see you beautiful dames. We spend our dough for bouquets that grow for all you cute and cunning young and beautiful dames. Oh, dames are necessary to show business. Dames, without you there would be no business. Your knees in action, that's the attraction, and what good's a show without you beautiful dames? Rehearsal tomorrow, 11 o'clock, be there promptly by then. Better set your alarm clocks for 9, at least no later than 10.
Dick Powell, Dames, extrait d'un film de 1934 qui s'appelait Dames. Un grand numéro avec, je crois, 100 filles à l'écran. J'ai fait un arrêt sur image. Fanny Beret, vous avez écrit ce livre, vous analysez 58 comédies musicales. Pourquoi ouvrir cette 42e rue par ce numéro? En quoi il est emblématique de la comédie musicale hollywoodienne?
Mais c'est emblématique de la comédie musicale puisque la comédie musicale, ça va nous épater. Donc déjà par l'abondance de girls, de danseuses, mais aussi de costumes, de changements de décor, par une mise en scène époustouflante. Et en plus, ici, ça avoue aussi le projet de la comédie musicale, et notamment le projet de la comédie musicale sur le Berkeley, à savoir de faire des corps féminins un spectacle. Ici, les girls vont à plusieurs reprises être transformées en motifs kaléidoscopiques. C'est-à-dire que par l'agencement des corps, par la façon dont elles vont bouger en rythme, on va avoir des grandes rosaces, des grandes fresques qui sont vraiment la signature de Busby Berkeley. On va avoir aussi, là aussi typique chez Berkeley, des travelling entre les jambes des danseuses, des plans particulièrement indiscrets qui font encore une fois des corps féminins un spectacle et qui ne sont pas sans poser un problème d'un certain point de vue féministe.
Alors vous parlez d'abondance dans la comédie musicale et puis vous parlez aussi d'accordance et c'est le choix numéro 2 de cette émission. Un numéro qui s'appelle For Me and My Gal, c'est un duo entre Gene Kelly et Judy Garland. Mais en fait, au départ, ils sont plutôt rivaux, c'est ça?
Oui, au départ, ils font partie d'un même spectacle, mais ne s'entendent pas, ils ne sont pas dans la même troupe. Et au tout début du numéro, donc, Gene Kelly chante une chanson qu'il va offrir au personnage de Judy Garland. Et dans ce numéro, va se construire progressivement la fin de leur inimitié, c'est-à-dire qu'on va comprendre qu'ils peuvent être destinés à peut-être finir ensemble, tout simplement parce que dans le numéro, on a cette démonstration d'accordance.
Qu'est-ce que vous appelez l'accordance?
Alors, l'accordance, je la définis comme la capacité du couple à produire de l'entertainment ensemble par une coopération égalitaire. Chacun va offrir ce qu'il a de mieux pour la bonne réussite du duo, pour la bonne réussite du spectacle.
C'est constitué de quels éléments alors?
Alors, il y a plusieurs ingrédients. Il y a la coopération, la fluidité et le plaisir ludique qui, pour moi, définissent l'accordance. Par exemple, dans le numéro, on va voir la coopération entre les talents de chanteuse de Judy Garland, puisque c'est elle qui reprend la chanson qui, une première fois, a été chantée de façon peu satisfaisante par Kelly. Et ensuite, c'est Kelly qui va mener la danse, puisque Gene Kelly est avant tout un danseur. Et au début de la séquence, c'est aussi mis en scène en termes de cadrage. On va avoir un plan successivement sur Garland, puis sur Kelly, et ensuite la caméra va les réunir pour montrer qu'ils vont finir ensemble.
Ding dong, ding dong, do you hear the bells go ding dong, do you know? Do you know why they're ringing? Do you know why the birds are singing? Well, you're gonna get a big surprise, 'cause I'm gonna put you wise. The bells are ringing for me and my gal. The birds are singing for me and my gal. Everybody's been knowing a wedding they're going, and for weeks they've been sewing, every Susie and Sal. They're congregating for me and my gal. The parson's waiting for me and my gal, and sometime we're gonna build a little home for two or three or four or more in Loveland for me and my gal.
The bells are ringing for me and my gal. The birds are singing for me and my gal. Everybody's been knowing a wedding they're going, and for weeks they've been sewing. They've been sewing something old and something new, so something that is blue, so they can make it true. So for my gal, they're congregating for me and my gal. Look here, why, that's the
parson waiting for me and my gang. We're gonna build a little home
for two,
or three,
or four,
or five,
or maybe more.
Love land for me and my gang.
Deuxième rue, Laurent Vallière, France Musique.
Meet me in St. Louis, Louis, meet me at the... Don't tell me the lights are shining any place but there. We will dance the hoochie-coochie, I will be your tootsie-wootsie. Meet me in St. Louis, Louis.
Meet me in St. Louis. I'll be out in a minute, Agnes. Meet me at the fair. Don't tell me the lights are shining any place but there. We cootie, cootie, cootie. We'll be a shootie, wootie. If you'll meet me in St. Louis, Louis, meet me in the fair. La 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 Louis. La 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 la. Any place but there. La 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 la.
I will be your tootsie wootsie if you will meet me in St. Louis, Louis. Meet me at the fair.
Le tout début du film Meet Me in St. Louis, le chant du Missouri de Vincente Minnelli en 1944, c'est Fanny Beret qui en parle dans son livre qui est sorti aux éditions Sorbonne Presse Université That Entertainment. Vous nous racontez, vous décryptez un petit peu les ingrédients d'une comédie musicale. Vous nous expliquez dans ce livre que, en fait, c'est assez normé, normatif, une comédie musicale à Hollywood dans les années 30, 40, 50. Et par exemple, il y a toujours un éloge de la communauté. Par exemple, dans ce film, qu'est-ce qu'on voit à l'écran à ce moment-là et comment cette communauté se construit?
Alors tout film de genre a ses codes, a ses normes. Et l'éloge de la communauté, c'est quelque chose qui traverse tout le cinéma américain et le cinéma américain classique, mais qui, dans la comédie musicale, va être retranscrit en musique et en danse. Et donc, dans cette première scène de Meet Me in St. Louis, on va avoir donc la chanson titre, Meet Me in St. Louis, qui va être reprise par les différents membres de la famille des Smiths. On a d'abord la petite sœur, puis le grand-père, puis la grande sœur incarnée par Judy Garland. Et plus encore, la chanson va circuler dans toute la maison, puisque ils vont se passer la chanson sous la forme d'un relais. C'est pour ça qu'on appelle ça la pass the long song. J'emprunte ce terme à l'américaine Jane Foyer, qui parle de ses chansons, donc chansons relais dans la comédie musicale. Et donc, dans Meet Me in St. Louis, la chanson va circuler dans les différents étages de la maison et passer entre les différents membres de la famille. Et ce que ça permet, en fait, c'est dès le début du film de poser les termes de Meet Me in St. Louis, à savoir comment conserver l'harmonie familiale, puisque ça, il va être question dans le film de déracinement, comment la conserver au sein de la maisonnée.
Alors, il y a d'autres normes qu'on voit apparaître dans la comédie musicale. Vous parlez de l'éloge du travail. Les comédies musicales sont toujours en train de parler de méritocratie, de dire que si on travaille, on y arrivera, c'est ça?
Et oui, étonnamment, alors qu'on pense souvent la comédie musicale en termes de divertissement, d'amusement, de spectacle, ce que fait la comédie musicale hollywoodienne classique, c'est tout simplement de réaffirmer un idéal protestant de travail. Dans de nombreuses comédies musicales qu'on dit de coulisses, c'est-à-dire les comédies musicales qui vont montrer l'envers d'un spectacle, eh bien, on va avoir cet éloge du travail, cet éloge surtout de la persévérance. Il ne va pas falloir se décourager devant les obstacles pour tous ensemble pouvoir réussir à monter un spectacle.
D'ailleurs, il y a The Show Must Go On.
C'est un peu
l'exemple type. Il faut, même s'il se passe des choses terribles, il faut continuer à travailler.
C'est ça. Coûte que coûte, le spectacle doit prévaloir.
Alors, c'est drôle parce que il y a plein de films qui montrent que oui, bah, peut-être qu'on est artiste, mais qu'on travaille aussi dur que n'importe quel autre ouvrier. Il y a un film dont vous parlez qui s'appelle La Jolie Fermière, Summer Stock. C'est en 1950, un film de Charles Waters avec, on est vraiment dans la confrontation dans ce film entre le monde de l'entertainment et le vrai travail à la ferme, c'est ça?
Oui, alors dans ce film, une troupe menée par Gene Kelly va s'installer dans la ferme où travaille la jolie fermière Judy Garland. Et notamment dans un numéro Dig 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 For Your Dinner, on va avoir cet éloge de la méritocratie et du travail en musique et en danse.
Ah bon? Qui interprète cette chanson dans le film? À quel moment?
Alors, c'est les membres de la troupe qui se voient poser un ultimatum. Pour rester à la ferme, ils vont devoir participer au travail et donc ils vont chanter le fait de devoir gagner leur dîner.
Ah, ils se motivent.
Wow. I don't want to sound like I'm preaching a sermon.
Oh, preach to me, preach.
But I've heard people say...
What did they say?
They said the early bird catches the worm. And there's a lot of good logic in that old cliche.
You know, he's right. Listen to him, children. He's right.
There are certain obligations you just can't shirk. You gotta put the heat on to make the kettle perk.
Now, ain't that the truth? Are you listening to the man? This is the man who saved me. I was wicked. I was banned. But this is the man who showed me the way. This is the man who took me by the hand up to the glory room. This is the man who showed me the light. This man here. This is the man who gave me the beat. This is the man who made me be righteous. This man.
And if you want it to be a good day, you gotta do a good day's work. You gotta dig, 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 dig for your dinner. Nothing's what you get for free. You gotta dig, 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 dig for your dinner. Never was a money tree. And furthermore, my friends, I must repeat, nobody's living down on Easy Street. And if you wanna owe for groceries, you're gonna get an awful lot of no-sirees. You gotta dig, 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 dig for a dollar. Tain't as simple as you think. You can't purloin a sirloin or the butcher or put you in the clink. You just can't be a lazy bird. You gotta get off of your twig so you can afford your room and your board. And it's nice to have the price of a cig. Hey, you gotta pay the fiddler man if you wanna do a jig. You gotta be as busy as a bee to be a Mr. B.I.G. And if you want some dig, dig, dignity, you gotta dig, 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 dig for your dinner. Dig, 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 dig.
Here I'm talking to you, dig, brother, dig.
That's the spirit, brother, dig, brother, dig.
Shine the chorus, brother,
dig, brother, dig, brother, dig, 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 dig.
That's right, you gotta see the light, you gotta pull your load, you gotta dig the ground, you gotta get it hold.
You gotta pitch right in or hit the road.
Say, ding, ding,
you
ding,
say.
Ding, ding.
You gotta feed the chickens, gotta milk the cow, you gotta stack the hay, you gotta push the plow, you gotta feed, milk, stack, push, the time is now.
Ding, 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 ding.
You gotta pull the weeds, you gotta rope the steer, you gotta bag the tiger, gotta shoot the deer, you gotta see your dentist twice a year.
And dig, 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 brother, dig,
brother, dig, brother,
dig, brother, dig,
up there.
Dig, brother, dig, brother.
You are an American?
Yes, ma'am.
Tell me, in America, are you one of the oppressors or one of the oppressed?
Oh, one of the oppressors, definitely.
Aren't you ashamed?
Come now, as one oppressor to the other, you know it's the best spot to be in.
Why can't you understand this is no laughing matter?
Comrade, we're in Paris in the spring. Why can't we make it a laughing matter? Let me show you something.
Gaze on the glistening lights below and above. Oh, what a night of nights for people in love. No city but this, my friend, no city I know, gives romance such a chance to grow and grow.
Your attitude is typical of the male in capitalistic society. You will soon be extinct.
How long have I got left?
Do not misunderstand me. As basic material, you might not be bad, but you are the unfortunate product of a doomed culture. I feel sorry for you.
You must admit that this doomed old civilization of ours sparkles. It glitters.
Paris loves lovers. For lovers, it's heaven above. Paris tells lovers, love is supreme. Wake up your dream and make love. Only in Paris one discovers the urge to merge with the splurge of the spring. Paris loves lovers. For lovers know that love is everything.
Pleasures. Paris. How was it you said? The urge to merge with a splurge.
That's right.
Paris.
Capitalistic.
Love, lover.
Characteristic.
For lovers.
Sensualistic.
It's heaven above.
They should be atheistic.
Paris.
Imperialistic.
Tells lovers.
I'm pessimistic.
Love is supreme. Wake up your dream and make love.
That's anti-communist.
Only in Paris.
Militaristic.
One discovers.
You're optimistic.
The urge to merge. With the splurge of the spring.
Bourgeois propaganda.
Paris.
Unrealistic.
Loves lovers. for lovers know that love
is individualistic,
is
and not at all collectivistic,
everything.
But a low totalitarianistic thing.
Sid Charisse, Fred Astaire, enfin je dis Sid Charisse, c'est pas elle qui chante, c'est Carol Richards, et Fred Astaire dans La Belle de Moscou, le film de Rouben Mamoulian en 1957, un titre choisi par notre invitée aujourd'hui, Fanny Beuret, universitaire, prof de cinéma et de comédie musicale, et auteur d'un livre qui s'appelle That Entertainment, qui est paru aux éditions Sorbonne Presse Université. C'est vous, Fanny, qui programmez aujourd'hui 42e rue. Et alors, vous avez choisi ce morceau dans le livre, vous parlez d'un exemple emblématique de conversion à l'entertainment. C'est vrai que les marxistes n'aimaient pas l'entertainment dans les années 30, 40, 50.
Ah, ça, je sais pas si on peut vraiment dire que les marxistes n'aimaient pas l'entertainment, parce qu'il y a des exemples de comédies musicales soviétiques où, au contraire, ils copient tout ce que font les Américains. Mais oui, donc La Belle de Moscou, remake de Ninotchka de Lubitsch, va transposer en termes musicaux l'affrontement entre États-Unis et URSS, et dans un film qui se déroule à l'époque de la guerre froide. Donc, comme l'entertainment va symboliser les valeurs américaines,
oui, voilà,
et bien
ça.
Typiquement, Sid Charisse, dans Ninotchka, va être d'abord totalement hostile à l'entertainment.
Alors, on a eu un numéro d'accordance, comme vous disiez tout à l'heure, là, à l'instant. Comment est structuré ce numéro? Parce qu'à la fin, elle est convertie, si je comprends bien, quand même, à la fin de la chanson.
Pas tout à fait à la fin de cette chanson. C'est plutôt à la fin d'un numéro dansé, All of You, qu'elle sera convertie dans le film. Mais dans cette chanson, en tout cas, ça amorce. C'est sûr que la chanson va amorcer la conversion. En fait, c'est une chanson qui intervient après une première partie qui avait été chantée par Astaire seul, où il chantait l'ensemble de la chanson. Et ici, on voit que Charisse intervient en faisant des petites ponctuations.
Très russe, hein, d'ailleurs.
Très russe, très staccato, oui. Avec cette rime en hic. Et en fait, alors que dans les paroles, elle fait mine de s'opposer, puisque lui dit que Paris, c'est l'amour, c'est la frivolité. À chaque fois, elle oppose à ça. Oui, mais c'est le capitalisme. Oui, mais c'est l'exploitation. Alors qu'elle fait mine de s'opposer, surtout avec cette structure question-réponse des paroles, en fait, comme l'effet produit est extrêmement plaisant, ce balancier entre les deux voix.
De complémentarité.
Voilà, ça produit, malgré eux, de l'entertainment. Donc nous, spectateurs, on sait bien comment ça va se finir.
Alors vous parlez dans votre livre, donc vous détaillez les ingrédients de la comédie musicale, et puis vous dites, voilà, l'organisation du spectacle, de la comédie musicale à l'écran, contribue de prime abord à faire apparaître le genre de la comédie musicale comme un terrain favorable à l'exercice d'un regard dominant, identifié comme masculin, blanc et hétérosexuel. Vous parlez de regard normatif. Et en même temps, vous y voyez des interstices. Et là, vous nous avez choisi un extrait, je crois très parlant. C'est le duo de Frank Sinatra et Betty Garrett. On peut dire que là, c'est madame qui porte la culotte?
Oui, madame qui mène la danse et qui va poursuivre le personnage de Frank Sinatra à travers tous les gradins d'un match de baseball, puisque c'est une comédie musicale qui se déroule dans l'univers du baseball. Et là, elle va littéralement le poursuivre de ses ardeurs, elle va même le prendre dans ses bras, elle va lui dire que il peut pas faire autrement, mais elle doit finir avec lui.
C'est un premier exemple de femme émancipée dans la comédie musicale?
Pas forcément un premier exemple historiquement, mais Betty Garrett va être abonnée à ce type de rôle, puisqu'elle fait déjà...
Homme à femme. Femme à homme, je veux dire, pardon.
Oui, en tout cas, femme dominante, femme qui ne va pas avoir peur de montrer son désir et de choisir l'homme qui va être l'élu de son cœur.
Et donc, la voici, Betty Garrett, qui attend à la sortie du vestiaire, Frank Sinatra.
Time you made your mind up not to stall with me. Start playing ball with me. Your future isn't changeable, shapeable. It's inescapable. If you should run to China or to Turkey or Sweden or Herzegovina or Mars, it wouldn't matter where you'd be. A force would pull you back to me. It's written in the stars. It's fate, baby, it's fate. And it's knocking at our door. It's fate, baby, and that's the reason you're mine and I am yours.
Don't wait, baby, don't wait. It'll happen anyhow. Don't wait, baby, to do next season what you can do right now. There's a plan for every woman and every man. Each was made for the other. Don't treat me like a brother. Too late, baby, too late. So accept your destiny. It's fate, baby, that you were meant to fall in love with me. I've gone and studied up in my astrology. Really knowledgey.
It doesn't matter if you are Aquarius or Sagittarius or Gemini or Scorpio or Taurus the bull, Capricornus or Pisces the fish.
Winter, summer, spring or fall, as long as you were born at all, mister, you're my dish. It's fate, baby, it's fate.
Can't I even put up a fuss?
It's fate, baby, the stars have written that you and me is us. It's right, baby, so right. I can see it in the cards. Don't fight, baby, take off that mitten, 'cause you and me is part. Listen, Mac, it's all arranged in the zodiac. Got you coming and going. Hey, bud, your future's showing. Too late, baby, too late. This feeling in me stirs. It's fate, baby, so let's start buying towels marked his and hers.
That's all, boys.
Man, he's really washed up.
Promises made faithfully. Put 'em in a box, tie 'em with a ribbon, and throw 'em in the deep blue sea. And you won't go wrong if you take a song sung by Frankie Boy or Mr. C. And throw 'em in the deep blue sea. sleep, not for me. Had enough. Love is one thing you can keep. You know what you can do with good old tea for two, and the girl for you, the boy for me. Put him in a box, tie him with a ribbon, throw him in the deep blue sea.
La magnifique voix de Doris Day dans le film Romance à Rio de Michael Curtis. Une chanson de Julie Stein et Sammy Kahn.
42e rue, Laurent Vallière, France Musique.
Et un choix de notre invitée Fanny Beuret. Alors, c'est intéressant dans votre livre, Fanny, vous consacrez quelques chapitres à des stars en particulier et vous les comparez. Vous mélangez et vous comparez le destin, la carrière de Doris Day et celle de Judy Garland. Pourquoi vous faites comme ça une comparaison entre elles deux?
Elles m'ont semblé similaires par le type de voix qu'elles sollicitaient, c'est-à-dire la voix belle, la voix de poitrine, cette voix typique de comédie musicale. Et en fait, pour les deux actrices, il m'a semblé que cette puissance qu'elles avaient vocalement leur permettait de aller au-delà des normes genrées assignées aux personnages féminins dans les comédies musicales. C'est un peu comme si alors...
Qu'est-ce que vous appelez les normes genrées assignées aux femmes dans les comédies musicales?
C'est un petit peu comme si alors que dans le récit, dans ce qui se passe dans les films, les personnages sont malgré tout très traditionnels, doivent répondre à une certaine façon de se comporter, d'un certain diktat, hein, tout simplement, assigné au personnage féminin. Dans les numéros musicaux, au contraire, elles se libèrent, elles font exploser leur individualité, leur puissance, et pour Doris Day, le côté bondissant, sautillant, optimiste, c'est quelque chose qui va lui permettre d'aller un petit peu au-delà d'un modèle très sage, très bonne petite américaine, une image qu'on lui oppose encore souvent aujourd'hui.
Et Judy Garland, par comparaison, alors, ses numéros étaient comment?
Alors, Judy Garland, c'est aussi, dans des numéros musicaux, une actrice qui va s'émanciper parce que elle va déborder par son intensité, par sa passion. Judy Garland est une actrice qui va avoir beaucoup de numéros musicaux, mélodramatiques, qui vont mettre en valeur son émotion. Et donc, dans les numéros musicaux, elle va aller bien au-delà de ce qu'elle peut faire dans le récit.
Donc, vous êtes en train de nous dire, quand vous regardez une comédie musicale, chers téléspectateurs, regardez bien les numéros dansés, parce qu'ils expriment plus la personnalité des acteurs que le récit, c'est ça?
Bah oui, pour les acteurs de comédie musicale, jouer, c'est avant tout chanter et danser. Donc pour moi, c'est vraiment dans les numéros qu'on voit toute la complexité du genre.
Alors, Doris Day, son personnage, son image a évolué. Au début, elle était un peu comme Garson dans les années 40. D'ailleurs, vous avez choisi un extrait de Calamity Jane, où elle incarne carrément un cow-boy. À quel moment correspond cette chanson « I Can Do Without You », ce duo qu'elle interprète dans le film Calamity Jane?
Alors, I Can Do Without You, c'est vers le début du film, et c'est un duo qui va l'opposer à celui qui va devenir bien évidemment son intérêt romantique. J'espère que je ne gâche rien en disant ça à l'avance. Donc c'est un duo entre Calamity Jane et le personnage, aussi un personnage historique, de Bill Hickok. Donc c'est un duo entre deux cow-boys, une femme et un homme. Et dans ce numéro, alors qu'ils vont faire comme si ils pouvaient se passer l'un de l'autre, hein, c'est littéralement ce que dit la chanson « I can do without you », eh bien en fait on comprend que non, c'est encore une fois une démonstration d'accordance et ils ne sont rien l'un sans l'autre.
On peut dire fausse querelle et vraie façon de tomber amoureux et coopération.
In the summer, you're the winter. In the finger, you're the splinter. In the banquet, you're the stew. Say, I could do without you.
In the garden, you're the gopher. In the Levi's, you're the loafer. Like an Overton canoe. Well, I can do without you.
You can go to Philadelphia, take a hack to Hackensack. Hey, I'll never ring a bell for ya or yell for ya to come back.
In the question, you're the why. In the ointment, you're the fly.
Though I know some things are indispensable, like a buck or two. If
there's one thing I can do without. I can do without you.
In the barrel, you're a pickle. In the gold mine, you're a nickel. You're the tack inside my shoe. Yep. I can do without you.
In my bosom, you're a dagger. You're a mangy carpet bagger. In the theater, you're the boo. I can do without you.
You got charms, they ain't bewitching me. You've a face no one would beat.
I've got the darn sick to me to be wherever you ain't.
In the bullfrog, you're the crow.
In the forest, poison oak.
Though I know some things are necessary, my half pint buckaroo. If there's one thing I can do without, I can do without.
You're not it.
You're a fake.
You're a bonehead.
Troublemaker. I can do without you.
If you want to ring the bell not once but twice, if you want to roll and roll those lucky dice, if you want to spend your journey's end with sweet music and love, if you want to lick this world of men and Mickey Mice, take my advice. When you sit down one day, look over yourself and say you're very good. Clap half on wood. When you have such success, you're conscious that you impress the neighborhood. Clap, tap on wood. When every meal you take is made of milk and honey. When every stock you stake is making men some money. When every heart you break is such a cinch, it's funny. Careful, sonny.
On wood. When you sit down one day, look over yourself and say you're very good. Tap on wood. Rap, tap on wood. When you have such success, you're conscious that you impress the neighborhood. Tap on wood. Rap, tap on wood. When every meal you take is made of milk and honey. When every stock you stake is making millions of money. When every heart you break is such a cinch is funny. Careful, sonny. You're knock out your good news, and you never, never lose if you just put on your dancing shoes and rap, tap, rap, tap, tap on wood.
votre choix, Fanny Beret, un extrait de Born to Dance, un film en 1936, une chanson de Cole Porter et un grand numéro d'Eleanor Powell sur scène dans ce cabaret.
C'est un numéro qui est assez représentatif de ce que fait Eleanor Powell, c'est-à-dire elle débarque et elle se met à danser. Et là, elle charme tout le monde sauf James Stewart qui n'est pas encore là. En fait, elle est au Lonely Heart Club, donc le club pour les cœurs esselés, et elle fait vraiment sensation en dansant et tout le monde se retourne sur elle et l'admire. Et ça, c'est assez emblématique de l'emploi qu'elle va avoir dans les films. Elle va faire toujours une aspirante danseuse, donc souvent une jeune provinciale qui monte à New York pour devenir une star, et elle va estomaquer littéralement tout le monde par le spectacle de sa compétence, le spectacle de son style de danse absolument atypique et extraordinaire.
Et alors pourquoi ce choix, Fanny Beret, de Eleanor Powell? Il y en a d'autres, hein, danseuses de claquettes, Anne Miller par exemple, mais pourquoi vous avez choisi elle aujourd'hui?
Alors j'ai choisi Eleanor Powell déjà parce qu'elle est un tout petit peu moins connue que Anne Miller, parce qu'elle fait partie de ces grandes stars des années 30 qu'on a oubliées, alors qu'à l'époque c'était vraiment une très très grande star de la MGM, et parce que Eleanor Powell, à la différence d'Anne Miller, eh bien c'est aussi quelqu'un qui va se décaler par rapport aux normes, aux stéréotypes de féminité. Eleanor Powell, parce que elle a un style qui, en mêlant claquettes, ballet et surtout acrobatie, ce qui est vraiment très très peu courant pour une femme, et bien par son style, elle va être en décalage avec les normes. Elle va souvent d'ailleurs porter un pantalon pour danser, ce qui est pas très courant à l'époque, et elle va souvent d'ailleurs être même vêtue d'un smoking, ce qui est quand même un habit emblématique par exemple de Fred Astaire, mais très rarement porté par des femmes. Elle va faire beaucoup de numéros en smoking. Donc pour plein de raisons, Eleanor Powell, elle me semble intéressante par ce décalage qu'elle propose.
Et elle chorégraphiait, je crois que c'était la seule femme à chorégraphier ses propres numéros. On termine avec un choix qui date pas des années 30, ni 40, ni 50, mais quelque chose qui date du 21e siècle. Parler nous de cette chanson, Love's Not a Game, extrait d'une série comédie musicale Crazy Ex-Girlfriend.
Alors Crazy Ex-Girlfriend, c'est tout simplement la meilleure série du monde qui se trouve être une série musicale. Est-ce que je vous fais le pitch?
Bah oui.
Alors Crazy Ex-Girlfriend, ça raconte l'histoire de Rebecca, jeune avocate new-yorkaise, qui décide du jour au lendemain de tout plaquer pour déménager à l'autre bout des États-Unis, à West Covina, une petite ville en banlieue de Los Angeles, pour y retrouver Josh, son amour de vacances qu'elle n'a pas vu depuis 10 ans. Donc Crazy Ex-Girlfriend, ça peut sembler un mauvais pitch et un pitch pas très féministe et qui va stigmatiser une femme qui s'attache à un homme. Et au contraire, c'est une série absolument impeccable du point de vue des représentations et une série musicale qui donc va comporter à peu près 3 numéros musicaux par film et chacun va pasticher un style de musique.
Et en l'occurrence là?
Et en l'occurrence, Love's Not a Game, c'est un des derniers numéros d'ensemble de la série, à la toute fin de la série qui s'est finie là en 2019 et qui va être donc un hommage au numéro Luck Be a Lady Tonight de la comédie musicale Guys and Dolls.
Et c'est chanté donc par l'ancien petit ami, hein, on est d'accord, dans la série.
Non, c'est chanté par l'ensemble des membres
mais
du cast.
Mais si Josh, c'est bien Josh qui dit Love and Not, c'est bien lui.
Non,
c'est...
Laurent, ce n'est pas Josh, mais White Josh.
White Josh, c'est pas le même.
Ben non, c'est Josh, mais en blanc.
How dare you play with love? Have you no decency? Love is what created him and her and me. How dare you play with love? Is nothing sacred to you, lady, sir?
I think the word is just ma'am.
Love is what unites me and you and him and her and him and me as well. J-K-L-O-L. Love's not a game, love's not a game. None of us would ever say love's a game. That would be bad, you can't be sure of. But I'm in the mood to wear this cool fedora.
Love's not a game, love's not a game. We would never play with love like it's a game.
But if we did, and that would be wrong, we'd put $30 down that Josh is as big as schlong.
Oh, interesting. I'll double that.
I'll triple that.
Love is not Olympians sprinting down courses.
There are dear friends, they are not horses.
Their love is pure, groom meets bride.
So we never soil it with a death pool on the side.
Josh, age 52, parasailing accident.
That's so smart, same.
Love's an end game, but it's not a game.
Our mouths keep saying that, but our hands need change.
Put 30 on red, poetically. For red's the color of a heart that beats free. Red is also Greg. It's Greg.
We definitely shouldn't do this. We definitely shouldn't do this. This is bad. This is bad. We're going to hell. This is bad.
I will give my counsel as a graduate of preschool.
Preschool?
No, priest school. I just talked to Jesus, and he said that it's cool.
Jesus said it's cool.
Bills, bills, Broadway playbills. Flops only appreciate over time.
Love's not a game, love's not a game. That being said, let's make it rain. While Cupid flies in from above,
the group mind has decided it's a bet on love.
Love's not a game, love's not a game, love's not a game.
Josh should be wary of parasails.
Dernier choix de notre invité Fanny Beret, Love's Not a Game, extrait de la série Crazy Ex-Girlfriend. 4 saisons, je crois, qu'on peut encore regarder. Merci Fanny Beret.
Merci beaucoup.
Sur la page de 42e rue sur francemusique.fr, on a mis toutes les vidéos de chaque extrait que vous avez choisi aujourd'hui, parce qu'avec l'image, c'est encore mieux. Et puis, votre livre, That's Entertainment, est paru aux éditions Sorbonne Université. Et puis, il y a un podcast qui s'appelle comment, qu'on peut regarder, qu'on peut écouter sur iTunes?
Alors, un podcast qui s'appelle All That Jazz, que j'anime avec mon amie Anna Marmiès, qui est disponible sur iTunes et SoundCloud, et qui parle de comédie musicale.
Merci. Dans l'actualité, si vous êtes à Paris, je vous conseille la reprise à partir de ce soir d'une comédie musicale de Marie-Céline Lachaud au théâtre Le Pic, Quand la guerre sera finie. Et puis, le prochain cabaret 42e rue, il aura lieu en direct dans 15 jours. Nous recevrons en avant-première les acteurs de Funny Girl, la nouvelle comédie musicale proposée par Jean-Luc Chopin au théâtre Marigny. Vous réservez vos places sur maisondelaradio.fr. Vous n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast 42e rue, à nous suivre ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Instagram. 42e rue, Laurent Vallière, Martine Moni, Alain Joubert, Céline Parfenoff, on vous souhaite un très bon dimanche. Dans un instant, vous retrouvez Frédéric Lodéon.
Rideau. À réécouter sur francemusique.fr.